Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Chevènement, sénateur du territoire de Belfort et président d'honneur du mouvement républicain et citoyen, ainsi que Jean-Jacques Oana, qui est fondateur de Riskelia, c'est
Oui.
ça, qui est un club d'analyse, enfin plutôt un centre de recherche d'analyse.
Non, nous sommes experts en risques financiers et nous
D'accord.
analysons les marchés et proposons un décryptage des marchés pour nos clients.
Très bien, et on reviendra. Vous avez écrit une tribune dans Le Monde
Absolument.
sur laquelle nous allons justement pouvoir discuter. Il y a un petit téléphone qui sonne, mais ça fait partie aussi des choses du direct. Donc Jean-Pierre Chevènement, nous sommes très heureux de
C'était
vous accueillir.
bien.
C'est pas le vôtre.
C'était vraiment honorable.
C'était le vôtre, d'accord, c'est pas grave du tout. Bah, je vous propose de vous écouter pour commencer cet échange qui va durer pendant près d'une heure. C'était il y a quelques jours au QG de campagne de François Hollande.
Je connais François Hollande depuis longtemps. Notre relation est une relation amicale, ce qui ne veut pas dire que François ne soit pas dur en affaires. J'ai gardé le souvenir de la confection des listes aux élections européennes de 1999. C'est un homme d'État réaliste qui, naturellement, se trouvera devant de très grandes difficultés.
Voilà, vous entendez donc apporter votre soutien à François Hollande. Dans l'Est républicain, vous avez déclaré soutenir François Hollande les yeux ouverts. Donc les yeux ouverts et vigilants et en toute confiance.
J'ai toujours les yeux ouverts. Et en politique, il vaut mieux. Hein, je sais que la tâche est extrêmement difficile et je sais gré à François Hollande de l'aborder sans démagogie, en disant ce qu'il est possible de faire, qu'on n'attende pas de moi un soutien qui essaierait de le tirer dans une direction où il ne veut pas aller. C'est lui le candidat et si je lui apporte mon soutien, ce n'est pas seulement parce qu'il y a un accord entre le Parti socialiste et le mouvement républicain et citoyen.
Alors, qu'est-ce qui vous a
Hein.
motivé justement à apporter votre soutien?
Ce qui m'a motivé essentiellement, ce sont les choix généraux et les valeurs qui sont celles de François Hollande et qui sont aussi les miennes. Ce sont les propositions que fait François Hollande dans maint domaine et qui, sur beaucoup de sujets, rejoignent les miennes.
Non,
Dans
par
certains
exemple,
cas,
voilà, oui,
eh
bon,
bien, si vous voulez, dans certains
les
cas,
quatre accords.
j'irai plus loin, par exemple. Je pense que s'agissant de la monnaie unique, c'est un édifice extrêmement fragile. Je pense que la crise de la monnaie unique n'est pas terminée. Par conséquent, j'envisage des scénarios qui pourraient nous conduire à adopter un jour, peut-être, une monnaie commune. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Non, je suis partisan de changer les règles de la monnaie unique dans le sens où François Hollande l'indique, par exemple, adosser le mécanisme européen de solidarité à la Banque centrale européenne, aller vers des euro-obligations, même si je crois
Voilà, on vient d'en parler un petit peu avec
que
Constance
les
Rivière.
Allemands accepteront peut-être des euro-obligations destinées à financer des projets, mais n'accepteront pas des euro-obligations destinées à mutualiser les dettes parce qu'ils considèrent qu'ils ont déjà payé pour leur lender de l'Est, ils ne veulent pas payer pour la Grèce et d'autres pays
Alors justement,
impécunieux.
voilà, là on rentre dans le cœur du sujet, la relation entre la France et l'Allemagne. On va écouter ce son de François Hollande au Bourget, le 22 janvier 2012.
La France doit retrouver l'ambition de changer l'orientation de l'Europe. Elle nous imposera, elle imposera de savoir convaincre et entraîner nos partenaires.
Voilà, donc on entendait cette position qu'il a ensuite répétée. C'est ce rapport de force entre la France et l'Allemagne que François Hollande souhaite établir s'il est élu président de la République. Quelle est votre analyse sur cette position?
J'emploierais plutôt le mot de rapport de confiance
Oui.
qu'il faut recréer entre la France et l'Allemagne.
Vous pensez qu'il a été rompu justement, qu'on n'est plus dans ce rapport
Je
de
pense qu'il
confiance?
y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'arrière-pensées. Il y a des divergences certaines. Hein, par exemple, même M. Sarkozy avait proposé d'utiliser les ressources de la Banque centrale pour financer la dette des États. Et c'est l'Allemagne qui ne l'a pas souhaité. Mais pour des raisons qui ont, dans une certaine mesure, leur justification. L'Allemagne défend la responsabilité des États. Elle ne pense pas que la solidarité puisse être sans limite entre tous les États européens et que, de toute façon, la solidarité européenne est forcément plus limitée que la solidarité nationale. Et en cela, on ne peut pas donner tort aux dirigeants allemands. Mais il y a un moyen terme. Je dirais qu'on peut avoir une vision égoïste. et rétracter des choses. Il me semble que c'est aujourd'hui le cas du gouvernement allemand. On peut avoir une position plus ouverte et accepter d'aller plus loin dans la mise au point d'instruments de croissance qui sont nécessaires. Parce que pour moi, le point fondamental, je le dis au nom du mouvement républicain et citoyen, à mon nom propre, c'est la volonté de François Hollande de réviser le traité désastreux, le traité scélérat, qui a été signé le 2 mars dernier à Bruxelles par M. Sarkozy, Mme Merkel et quelques autres qui ont le couteau sous la gorge, qui ne peuvent pas faire autrement. C'est un traité d'austérité à perpétuité, un traité de mortification, comme on aurait dit au temps de Pascal, des pénitents portant cilice. Hein, c'est quelque chose qui est insupportable.
Justement, on a l'impression d'entendre un vrai clivage au niveau européen entre cette Europe de l'austérité, où le discours tenu est surtout un discours de rigueur budgétaire, de baisse de la dette, et ce discours s'oppose à un discours de croissance. Et peut-être que là, j'aimerais donner la parole à Jean-Jacques Cohana. Vous avez écrit un article qui s'appelle « Le pacte fiscal ne sauvera pas l'euro ». Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un petit peu votre position et justement votre vision de cette Europe de l'austérité dont parle Jean-Pierre Chevènement avec des mots durs?
Tout à fait. Déjà, je voudrais dire que je suis vraiment très heureux de débattre avec Jean-Pierre Chevènement parce que dès le début, il avait eu aussi cette vision prophétique que l'euro était mal conçu dès sa création. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner. Si nous avons écrit cette tribune...
Voilà, sur cette Europe de l'austérité.
Alors, si nous avons écrit cette tribune, quelle est notre démarche? Nous voyons sous nos yeux la zone euro se déliter depuis 2 ans. Et aujourd'hui, nous constatons que la crise est principalement une crise européenne. Ce n'est plus seulement... c'est pas une crise mondiale, c'est une crise européenne.
Alors, en quoi c'est une crise européenne?
Les Européens ont adopté un point de vue de l'austérité, voulant corriger les excès passés. C'est vrai qu'en France, par exemple, ça fait 40 ans qu'on n'a pas présenté un budget à l'équilibre. Donc il y a eu un problème, il y a eu des dérives. Mais croire que nous pouvons effacer notre passé simplement en réduisant drastiquement les dépenses et en ponctionnant la croissance, c'est une pure illusion.
Vous pensez que ça ne va absolument pas résoudre le problème? Ça va aggraver même ce problème?
Tout à fait. Et c'est extrêmement important de le comprendre, parce que si nous avons écrit cette tribune, c'est pour nous élever contre ce faux consensus.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors à ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Déjà, pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à partir du moment où vous touchez les dépenses fortement et vous handicapez forcément la croissance, et à partir du moment où vous détruisez votre croissance... le déficit s'accroît. C'est exactement ce qui se passe en Grèce, c'est ce qui s'est passé en Grèce. C'est-à-dire que la situation depuis 2010 en Grèce a été empirée par les différents plans d'austérité qui ont été appliqués. C'est ce qui s'est passé en Espagne, c'est ce qui s'est passé au Portugal, c'est ce qui s'est passé dans une moindre mesure en Irlande. Et contrairement à ce qu'on dit, en Italie, ça ne va pas si bien non plus. Donc partout où l'austérité est appliquée, elle échoue. Déjà, on doit être face à la réalité et admettre la réalité. Alors que peut-on faire?
Voilà. Et puis après, justement, que Jean-Pierre Chevènement puisse réagir aux solutions.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, le meilleur gage de la solvabilité pour tous les pays européens, c'est la croissance. C'est extrêmement important.
Ça, je pense que tout le monde serait d'accord, mais comment on la provoque? Alors, parce qu'il y a une inquiétude, les gens se disent peut-être que les États n'ont plus de marge de manœuvre pour relancer l'économie.
Tout à fait. C'est pas totalement exact, puisque en Allemagne, tout à l'heure on en parlait, on a des taux qui sont inférieurs à 2%. Donc à partir du moment où vous avez des taux qui sont très
des taux de croissance,
des taux d'endettement qui sont très inférieurs au taux de croissance, même allemand par exemple, qui sont très inférieurs à l'inflation, vous avez une possibilité de relance aujourd'hui qui n'est absolument pas exploitée. C'est à savoir que finalement cette disparité des taux d'intérêt au sein de la zone euro conduit des pays à appliquer l'austérité avec des taux d'intérêt élevés, alors que l'Allemagne ne met absolument pas à profit ces taux d'intérêt faibles. Donc la première chose qu'il faudrait faire, en effet, c'est mutualiser les dettes.
Les euros. Donc ça, c'est les euro-obligations. Donc
les euro-obligations.
Jean-Pierre Chevènement en a tout à l'heure parlé.
Que ces euro-obligations servent à relancer l'économie. par des plans d'infrastructure, par des plans ciblés sur la croissance, dans l'investissement, dans la recherche et développement, dans l'innovation, dans les énergies renouvelables.
Voilà, Jean-Pierre Chevènement, est-ce qu'on peut, là, il y a une piste qui vient d'être tracée, les projets européens. D'abord, quelle est, vous, justement, votre conception de cette Europe de la croissance? Que faudrait-il faire? Et est-ce qu'il va y avoir une majorité de pays pour pouvoir mettre en place ces projets?
Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que 26 pays se sont engagés à réduire leur déficit à zéro, ou en tout cas à 0,5% du PIB. Pour la France, notre déficit actuel est de 5,2, ce qui veut dire que nous ferions un effort de 4,7 points de PIB. À quoi devrait s'ajouter un désendettement sur 20 ans pour ramener à 60% du PIB le stock de la dette de la France. Ça veut dire que chaque année, nous devrions économiser entre 110 et 120 milliards d'euros. Monsieur Sarkozy ne conteste pas ces chiffres. Il vient de les donner officiellement. Mais on fait ça dans tous les pays à la fois et d'une manière continue, durablement. C'est aberrant. C'est un choix qui est le choix de Laval en 1935, la fameuse politique qui consistait à baisser les salaires des fonctionnaires. Mais ça, c'est une politique qui conduit dans le mur. C'est une évidence. Mmh. Comment allumer des moteurs de croissance? Quels sont-ils? Alors, un plan d'investissement financé par emprunt. On en parlait depuis longtemps, même depuis 1994.
Et dans quel secteur il faut investir alors?
Essentiellement les infrastructures de transport, les infrastructures d'énergie, la transition énergétique. Tout cela, ça représente des sommes tout à fait colossales. La recherche, l'innovation, la politique industrielle dans un certain nombre de domaines, le numérique par exemple, la mise à haut débit de l'ensemble des territoires européens, ça représenterait des sommes tout à fait colossales. Et il me semble qu'on doit pouvoir s'endetter pour investir. Que la grande erreur consiste à confondre la dette de fonctionnement, qui est mauvaise, et d'autre part la dette
d'investissement
qui permet de financer l'investissement, qui est rentable et qui permet, au fond, au dynamisme de l'économie de se maintenir.
Parce que c'est vrai que c'est un vrai clivage, là. C'est qu'il y a un pari en disant, en réduisant la dette, les déficits, on va assainir la situation, et là, au risque de tuer le malade, ou au contraire, d'arriver à, même si ça va un petit peu provisoirement relancer la dette, relancer l'économie. Vous voulez peut-être réagir là-dessus, Jean-Jacques?
Déjà, une première chose, je voudrais souligner le contraste entre les objectifs affichés par l'austérité et les résultats. Les objectifs affichés, ce sont toujours des retours à l'équilibre, et les résultats, ce sont toujours des économies qui s'enfoncent, partout. Alors, on nous cite deux exemples qui sont assez intéressants, la Suède et le Canada, en nous disant que nous allons reproduire ces deux exemples. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ces exemples ne sont absolument pas applicables à la zone euro. Pourquoi? Parce que ce sont deux pays qui avaient le contrôle sur leur devise, donc qui ont bénéficié d'une dévaluation compétitive à l'époque où l'austérité budgétaire a été appliquée. Et d'autre part, ce sont des pays qui ont bénéficié d'une croissance favorable à l'extérieur de leurs frontières, d'un environnement de croissance favorable. Aujourd'hui, nous n'avons pas le contrôle de notre monnaie, nous n'avons pas le contrôle de nos taux d'intérêt, et nous avons une croissance globale, mondiale, qui est plutôt atone, et très faible, extrêmement faible, sinon négative en zone euro.
Alors, on a vu qu'il y avait, on parle des États, de différents points de vue, de deux vraies options différentes entre l'Europe de l'austérité et l'Europe de la croissance. Il y a dans ce débat les marchés financiers qui ont un peu été vus comme des arbitres avec les notations des États, le fameux triple A que la France a perdu au début de l'année. Comment pouvoir construire une Europe de la croissance qui va demander des financements si les États se retrouvent face à des marchés qui ne veulent pas prêter de l'argent, ou en tout cas à un prix très élevé?
Je suis entièrement d'accord avec M. Ouana. On le voit avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne. Tous ces politiques s'enfoncent. Toutes les politiques qui sont menées dans ces pays les enfoncent dans le marasme, le chômage de masse. Comme la zone euro fonctionne très largement sur elle-même. Disons que les deux tiers du commerce extérieur des pays de la zone euro se font à l'intérieur de la zone euro. Il est évident que des politiques dépressives menées simultanément dans tous les pays vont entraîner une dépression cumulative qui est grosse de risques sociaux, politiques de toute nature. Donc, ce qu'on appelle les marchés financiers, ce sont les gens qui spéculent, ce sont les fonds d'investissement, les fonds de pension, ce sont aussi les banques, hein, y compris les nôtres, y compris même les banques publiques. Hein, ce sont tous les gens qui ont de l'argent.
Oui, mais les banques, on l'a vu par exemple sur la crise grecque, certaines banques ont eu à dévaluer 50% des prêts qu'elles avaient pu faire à la Grèce. Donc, il y a sans doute aussi une frivolité qui s'explique par toutes ces pertes. Est-ce que une fois de plus, on va aller trouver des financements pour cette Europe de la croissance ?
Mais ces banques ont pris une responsabilité énorme en prêtant sans faire attention à qui emprunter pour des taux considérables. Regardez ces banques aujourd'hui qui peuvent être financées à 1% par la Banque Centrale Européenne à hauteur de 1 000 milliards. Hein, et qui vont prêter ensuite aux États, par exemple en Espagne, à 5,5%, puisque c'est le taux d'emprunt à 10 ans de l'Espagne. Même chose en Italie. C'est absolument scandaleux. Et la même Banque centrale refuse de venir en aide aux États, dans des conditions qui mériteraient d'ailleurs d'être discutées, parce que ça ne peut pas se faire sans contrôle. Mais il est absolument évident que ce choix, vous appelez ça marché financier, c'est le choix de nos élites financières, c'est le choix de la cupidité, c'est le choix, je dirais, des rentiers de la finance contre le monde du travail, contre les gens qui sont au chômage, qui souffrent, qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est vraiment un choix de classe.
Alors là aussi, vous venez d'évoquer un sujet aussi très important, c'est le rôle du coup de la Banque Centrale Européenne. En effet, vous avez expliqué qu'elle prêtait aux banques, mais cette Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter aux États, ce qui peut surprendre les gens. Vous vouliez réagir peut-être sur ces sujets ?
Oui, sur les marchés financiers. Il me semble que c'est extrêmement important de comprendre que les marchés financiers, c'est un peu tout le monde. Finalement, quand on a...
C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi les petits épargnants
aussi, aussi, pourquoi ? Parce que tout le monde l'épargne des Français est aussi investie en assurance-vie, l'épargne des Français est aussi déposée sur des comptes courants. Donc, nous sommes tous aux prises avec les marchés financiers et les États en ont aussi besoin. Donc, ne stigmatisons pas. Et d'autre part, ce qui s'est passé dans la zone euro, ce n'est pas dû aux marchés financiers. Ce n'est pas tendu aux agences de notation, même si elles ont été irresponsables, mais c'est avant tout dû au manque de clarté du projet européen et du projet de la zone euro.
Alors c'est le rôle de qui, ça ? C'est le président de la Commission européenne ? C'est Monsieur Barroso ? C'est...
Détaillons. Aux États-Unis, les États-Unis ont été dégradés pendant l'été. Les taux américains aujourd'hui sont à des niveaux extrêmement bas. Le Japon a été dégradé plusieurs fois. Les taux japonais sont à des taux extrêmement bas. Quelle est la différence entre l'euro, le Japon et les États-Unis, c'est qu'ils ont des banques centrales qui prêtent en dernier ressort. Nous n'avons pas de banques centrales qui prêtent aux États en dernier ressort. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument faire des euro-obligations, parce que dans les euro-obligations, nous allons introduire une gouvernance pour que chaque pays ait accès à des taux de financement extrêmement faibles, garanti en dernier ressort par la Banque Centrale Européenne. Mmh. Et connaissant les marchés financiers, je peux vous garantir que le succès sera tel qu'on aura des taux de financement extrêmement bas. La meilleure agence de notation, c'est la BCE. Il n'y en a pas d'autre. C'est elle qui doit noter les États.
D'accord. Donc,
est-ce que je peux émettre une légère nuance avec M. Oana. Je ne pense pas qu'on puisse dire les marchés financiers, c'est nous, vous, les copains, c'est tout le monde, au risque de stigmatiser. Non. Soyons sérieux, je pense que si on autorisait les particuliers à souscrire les titres de dette, comme ça se fait par exemple au Japon...
C'est pas possible aujourd'hui en France.
Mais en France, c'est pas possible. Mais on pourrait très bien l'imaginer. Et croyez-moi, l'épargne française est très élevée. Beaucoup de gens préféreraient acheter des bons du Trésor à 3 ou 4% plutôt que de confier leurs économies à des banques qui, effectivement, elles, spéculent. Et c'est un des projets de François Hollande de casser à l'intérieur des banques de faire en sorte que les banques qui sont des banques de dépôt, qui collectent l'épargne des particuliers, ne puissent pas utiliser cette épargne pour spéculer, ce qu'on appelle les activités de marché. C'est quand même la caractéristique du capitalisme financier tel qu'il s'est développé depuis le début des années 90 avec la liberté des mouvements de capitaux, je vous le rappelle, qui a été instaurée malheureusement en application de l'acte unique, non, un peu plus tard, 1er janvier 1990. Mais on a créé là une inégalité fondamentale entre le capital et le travail. C'est évident que les capitaux peuvent se balader dans le monde entier à la vitesse de la lumière, pas le travail. Les travailleurs, eux, ils sont assignés au local. Donc, ma nuance avec M. Oana étant, je pense, bien explicité. Hein. Je suis pour le reste d'accord avec lui, mais c'est le capitalisme financier dans lequel nous vivons qui est en cause. Il faut mettre de la viscosité
dans
le système.
Il faut remettre des contrôles, bien entendu. On peut avoir l'impression d'être face à une grosse hydre sur laquelle nous n'avons plus de prise.
Mais c'est tout le sens du propos de François Hollande quand il dit qu'il a un véritable ennemi, un ennemi sans visage. C'est le monde de la finance. Je pense qu'il faut mettre de la viscosité dans le système. Hein, alors, c'est la taxe sur
les capitaux, les transactions financières.
Ça peut être un contrôle des mouvements de capitaux à un certain niveau, désormais autorisé par le FMI vis-à-vis d'un certain nombre de pays. Je pense que ce système totalement dérégulé, où vous avez des mouvements gigantesques qui peuvent s'amplifier, comme on le voit d'ailleurs dans les pays d'Europe du Sud. Un pays comme la Grèce, aujourd'hui, ne peut plus emprunter, sauf à 28% taux d'intérêt. C'est complètement absurde. Ouais. C'est vraiment le triomphe de l'imbécilité.
Quand on vous entend, on a envie d'aller vers cette Europe de la croissance. C'est vrai qu'elle donne plus envie qu'une Europe de l'austérité. Quels sont les pays en Europe qui sont prêts à soutenir la France sur cette position de l'Europe de la croissance?
Juste avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur la BCE, parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, en plus des politiques d'austérité qui sont appliquées en Europe, nous avons une banque centrale européenne qui est uniquement focalisée sur l'inflation, qui est un objectif certes important,
mais qui contraste avec toutes les autres
banques centrales, puisqu'elles ont en permanence deux objectifs à maintenir, à savoir la stabilité des prix, et le deuxième objectif qui est fondamental, le soutien à la croissance.
Vous aimeriez réformer les statuts de la BCE pour que, en plus du contrôle de l'inflation, s'ajoute la demande.
C'est indispensable. Et il y a une deuxième chose, c'est que ça pourrait infléchir la politique de la BCE, qui, je dois le dire, étant sur les marchés, est en dépit du bon sens. C'est-à-dire que parmi les pays industrialisés, nous avons la croissance qui est la plus faible, les taux d'intérêt qui sont parmi les plus élevés, parce que même ils sont assez élevés, notamment par rapport aux, et en même temps une politique de maîtrise des coûts et pas de
l'emploi.
Absolument. Et en même temps une politique d'austérité qui ne privilégie pas la croissance.
Mais sur les alliés, parce que quand on vous écoute...
Je vais répondre à votre question. Non, sans avoir relevé auparavant que les statuts de la BCE ont été copiés sur les statuts de la BUBA, de la Bundesbank allemande, c'est l'essentiel du traité de Maastricht, que moi je n'aurais pas combattu si je ne l'avais pas lu.
En effet, vous aviez voté contre Maastricht.
Moi j'ai voté non parce que je l'ai lu. Ouais. Mais je veux dire que parmi ceux qui ont voté oui, la plupart ne l'avaient pas lu et croyaient que votant pour l'Europe, ils votaient pour la prospérité, le plein emploi et tout ce qu'on leur disait. Hein, qui était évidemment contraire à toute réalité pour quiconque savait lire. Donc apprenez à lire. Hein, c'est le conseil que je donne.
Donc, le prochain traité,
à ceux qui
il
nous écoutent,
le lire.
Hein, et lisons les traités. Maintenant, je réponds à nos alliés. Mais nos alliés, ce sont les peuples. Même en Allemagne. Vous savez, l'Allemagne a subi une politique de déflation salariale depuis 2000, hein, sous l'impulsion malheureusement du chancelier Schröder, mais ensuite relayée par Madame Merkel, qui lui a fait gagner entre 10 et 15 points de compétitivité par rapport à la France. Mais les salariés allemands, pays dans lequel il y a une certaine pauvreté, une certaine précarité, on ne le dit pas souvent, les salariés allemands maintenant, ils demandent une rallonge. Ils demandent qu'on augmente leur salaire dans des proportions d'ailleurs non négligeables. J'ai lu pour les fonctionnaires 5 à 6%.
C'est, eh bien,
la relance salariale peut être aussi un modèle moteur de croissance pour les pays qui peuvent se le permettre. Mmh. Mais l'Allemagne est évidemment parmi ceux-là, parce que la crise de l'euro est très largement le reflet des déséquilibres de balance commerciale qui se sont créés depuis une bonne dizaine d'années. Mmh. L'Allemagne a 150 milliards d'excédents, la France 70 milliards de déficit.
Voilà. Alors, oui, une remarque sur l'Allemagne.
C'est une remarque
sur ces peuples ou sur les peuples qui peuvent changer.
Sur ce qui peut changer.
Qui ont envie de changer
ce
peut-être.
Ce qui peut changer aujourd'hui dans la zone euro. Une remarque très importante, c'est que déjà François Hollande a des alliés naturels dans les pays de l'Europe du Sud. Parce que toutes les politiques d'austérité ayant échoué, aujourd'hui nous apprenions par exemple que Mario Monti disait...
Vous disiez pourquoi, alors qu'est-ce qui se passe en Italie ?
Disait qu'il allait arrêter la politique d'austérité parce qu'aujourd'hui il veut privilégier la croissance. Parce que la croissance aujourd'hui, l'Italie est en récession et donc ne pourra pas honorer ses objectifs. C'est-à-dire que même ce qu'on nous dit, un autre mythe que l'Italie, ce sont des politiques qui sont en train d'être mises à profit, ce sont des politiques qui sont en train d'échouer, parce que l'Italie va encore rater ses objectifs. Donc Mario Monti, Mariano Rajoy en Espagne, les Pays-Bas qui aujourd'hui ont raté encore leurs objectifs budgétaires et qui sont divisés sur une amplification de la politique d'austérité.
Alors est-ce que vous pensez que, justement, est-ce que s'il y a un changement de majorité en France, et un nouveau président, est-ce que ce sera un message pour ces pays européens pour que peut-être ils infléchissent
à une condition.
Alors, quelle est la condition?
C'est-à-dire que la relance de la croissance aujourd'hui, c'est un objectif qui est louable, mais qui est souvent mis en face de la crédibilité. Or, le problème de la France, par rapport autour de la table
de
ses partenaires, c'est que budgétairement, nous ne sommes pas crédibles.
Pourquoi?
Parce que ça, depuis 40 ans, on n'a pas présenté un budget en équilibre.
Donc, mais c'est le cas de beaucoup de pays. Même l'Allemagne a joué sur les déficits quand c'était difficile. Ça, c'est pas le seul
Mais l'Allemagne est crédible. Nous ne sommes pas crédibles parce que nous n'avons jamais contrôlé notre déficit. Une manière d'être crédible.
Enfin là, Jean-Pierre Chevènement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que quand on était dans une désinflation compétitive.
Je suis d'accord parce que la dette de l'Allemagne est à peu près la même que celle de la France, à peu de choses près. Celle du Japon, c'est 200% du PIB. Et M. Hanna ne me contredira pas, les États-Unis ont eu à un moment une dette qui faisait 350% de leur PIB. C'était en 1950. Ils ont résorbé cette dette par la croissance, que vous disiez tout à l'heure. Nous aurons un allié principal, je crois que ce sont les États-Unis. Les États-Unis ne souhaitent pas voir l'Europe s'enfoncer dans cette politique d'austérité à perte de vue.
Donc on aura peut-être un soutien qui viendra non pas de
l'Europe, mais d'autres Atlantiques. Et dans ma bouche, ça vous paraîtra bizarre.
Jean-Pierre Chevènement,
mais ça vous paraîtra bizarre. Moi, je pense que les Américains sont beaucoup plus raisonnables que cette espèce de folie, d'orthodoxie tous azimuts qui est professée à Francfort et à Bruxelles. Je pense que les États-Unis ont une politique qui leur vaut une croissance de 2,5% par an. 2,5%, c'est mieux que zéro, hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Oui. L'Europe, c'est vraiment la lanterne rouge de la croissance mondiale. On est même en récession, globalement.
Donc peut-être que les Américains seront nos alliés.
Mais ils seront nos alliés du point de vue de la persuasion, parce que nous aurons à nous appuyer en Allemagne sur le SPD, ou du moins sur les éléments qui,
Monsieur
au sein du SPD,
Gabriel,
peuvent le mieux nous comprendre. Sigmar Gabriel, je ne dis pas Peer Steinbrück, par exemple, qui est un libéral.
Alors, faut peut-être le présenter, je ne sais pas si tout le monde...
libéral. Ouais. Bah, c'était le ministre des Finances de la Grande Coalition.
Voilà.
Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup à attendre de Monsieur Steinbrück. Par contre, il y a au sein du SPD, il y a dans le DGB, le DGB, les syndicats allemands, des gens qui seront d'accord avec nous.
Donc il faut
construire ces
majorités.
Et il y a au cœur de l'Allemagne cette idée que, parce que c'est un problème géopolitique, il faut sortir de l'économisme, c'est que la politique du cavalier seul, ce qu'on appelait le Sonderweg autrefois, a conduit l'Allemagne à la catastrophe, à deux reprises. Et aujourd'hui, il y a une Allemagne qui pense que Thomas Mann, qui préconisait une Allemagne européenne, avait raison. Thomas Mann disait, comme l'Europe ne peut pas être allemande, puisque l'Allemagne n'a pas la possibilité de dominer seule toute l'Europe, eh bien, il vaut mieux avoir une Allemagne européenne. Donc,
alors,
il faut faire appel à l'Allemagne européenne pour lui faire comprendre que nous avons besoin, en Europe, d'une politique de croissance pour résorber nos déficits. Alors, et notre
Jean-Jacques Oana, et puis on va terminer ce débat sur l'Europe, et Jean-Pierre Chevènement, on vous gardera sur un autre sujet et sur d'autres sujets.
Deux points importants, je souscris totalement à ce que vient de dire Jean-Pierre.
Sur la partie aller chercher les Américains.
Tout à fait, et d'ailleurs c'est un paradoxe qu'il faut absolument...
Non, ils viennent tout seuls les Américains.
Il faut absolument souligner au tenant de l'austérité en zone euro, c'est que tous les anglo-saxons, américains et de plus en plus les anglais aussi, si vous lisez le Financial Times, il y a tous les jours des articles qui sont contre l'austérité, soulignent qu'on ne s'en sortira que par une relance de type keynésienne. Qu'on est dans une perspective qui ressemble totalement à celle des années 30 et pas du tout à une autre perspective. Or, dans les années 30, on ne pouvait s'en sortir que par une relance keynésienne. C'est la leçon de l'histoire. Alors, que nous ne voulons pas écouter.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression de pas forcément formuler les choses comme ça, c'est qu'on est à un moment historique de l'histoire de France où il y a un choix entre deux chemins. Les deux peuvent paraître à un moment avoir des vertus.
C'est le chemin des conservateurs et même des néoconservateurs d'un côté, de la régression sociale,
et
de l'autre côté, c'est, les forces de progrès. C'est un choix de vie.
D'accord.
Alors il faut le faire maintenant et pour cela faire élire François Hollande.
Alors, merci beaucoup Jean-Jacques Oana pour cette venue dans les studios de Radio Hollande. Nous allons faire une petite pause musicale et reprendre avec Jean-Pierre Chevènement sur des thématiques plus franco-françaises. A tout de suite. M, qui de nous deux on reprend nos échanges avec Jean-Pierre Chevènement.
Quelle est la plus grande mission que de présider la République française ?
Jean-Pierre Chevènement, l'actualité récente a été marquée par cette interpellation d'islamistes radicaux qui est intervenue quelques jours après la mort de Mohamed Merah. Quelle est votre réaction sur ce mouvement d'interpellation ?
Eh bien, je me suis dit une chose à partir du moment où j'ai appris qu'on avait saisi des armes de guerre, des kalachnikovs, des fusils, des pistolets à leur domicile. Je me suis dit, mais pourquoi n'a-t-on pas fait plus tôt ? Et mon raisonnement s'applique aussi, d'une certaine manière, à Mohamed Merah, dont on savait qu'il était allé dans les camps d'entraînement au Pakistan, au Waziristan. Enfin, on devait le savoir, parce que l'alibi touristique, si vraiment la DCRI, qui est le service de renseignement intérieur, l'a pris au sérieux, ça, c'est, comme dirait M. Juppé, une faille. Donc je pense que la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi pas plus tôt ? Et pourquoi maintenant ? Et pourquoi à la veille des élections présidentielles ? Parce que j'observe que la plupart des procédures judiciaires ont été lancées fin février ou début mars. Elles auraient pu l'être avant. Je pense que si la DCRI fait correctement son travail sur les filières djihadistes, on aurait pu en savoir un peu plus. Et par exemple, on aurait pu faire une perquisition au domicile de Mohamed Merah. On aurait trouvé tout un arsenal. Ça aurait été intéressant. Mais par ailleurs,
est-ce que vous demandez justement alors à ce moment-là au gouvernement des comptes ? Est-ce que vous êtes favorable à une enquête sur ce qui s'est passé sur Mohamed Merah ?
Mais je pense que il faut naturellement qu'on puisse poser des questions. Ça peut se faire à l'intérieur d'une commission du renseignement qui est composée de parlementaires de la majorité et de l'opposition. Mais
alors justement, l'UMP aujourd'hui a annoncé, le groupe UMP du Sénat, qu'elle refusait de participer aux auditions que le Sénat souhaitait organiser pour un peu...
Permettez-moi de vous dire les choses telles qu'elles se sont passées. Il y a d'abord eu cette commission du renseignement qui a demandé à auditionner les deux principaux responsables du renseignement en France, le patron de la DGSE, M. Corban Mangou, et le patron de la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, M. Squarcini. Refus. Ça, je trouve ça inadmissible. À partir de là, la commission qui est chargée de contrôler l'application des lois demande à entendre sur l'application des lois sur le terrorisme, qui sont déjà anciennes pour certaines d'entre elles. Elles datent de 1986. D'autres sont intervenues ultérieurement, réitèrent cette même demande et naturellement, même réponse. Mais je voudrais revenir, si vous le permettez, sur ces interpellations.
Vous les présentez comme étant finalement pour vous un coup politique à quelques jours du premier tour des élections ?
Je ne dis pas que certaines ne sont pas justifiées. Si on trouve des armes au domicile de ces individus, si ceux-ci ont proféré des propos attentatoires, aux valeurs les plus sacrées de la République, au principe d'égalité, ils se préparaient effectivement à enlever un magistrat lyonnais, M. Albert Lévy, c'est quand même grave. Il est bon d'avoir déjoué ses intentions, si elles existaient. Parce que peut-être n'existent-elles pas aussi. Nous sommes dans un état de droit. Donc j'observe que certaines de ces personnes qui ont été interpellées ont été relâchées parce qu'il n'y avait pas de charge contre elle. Donc, la question que je pose à M. Guéant, c'est pourquoi ne pas avoir réalisé certaines de ces interpellations plus tôt, à titre préventif, comme il m'est arrivé de le faire moi-même à une certaine époque. Enfin, ce n'était pas moi qui l'ai réalisé, puisque ça se faisait sous l'égide des juges antiterroristes, mais avec, naturellement, collaboration de mes services.
On a l'impression que c'est le ministre de l'Intérieur.
Des services de renseignement.
Et non pas la justice.
Non, mais ne nous fions pas aux impressions. Ouais. Sachons comment marche l'État. Le dispositif. Il y a des procédures judiciaires qui ont été ouvertes il y a déjà plus d'un mois. Elles sont suivies maintenant, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, d'interpellations à grand spectacle dans trois villes de province, Nantes, Marseille, Lyon, dans trois villes de la région parisienne, avec les caméras qui sont là, c'est-à-dire les journalistes ayant été ameutés préalablement. on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir s'il n'y a pas une certaine instrumentalisation de ces affaires pour essayer de récupérer l'effet effrayant ouais. produit par les tueries de Montauban et de Toulouse.
Parce que ça
Or, je pense que dans la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas politiser droite-gauche. Je pense que, comme l'a dit François Hollande, nous devons tous être unis au coude à coude pour lutter contre le phénomène du terrorisme, mais dans le cadre de l'état de droit. Et l'état de droit, ça implique un certain nombre de procédures.
Hein. Et qui ne sont pas respectées selon vous là, est-ce que les procédures ont été respectées justement? Vous qui avez été ministre de l'Intérieur,
on
qui
peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu un certain défaut de vigilance de la part des services, et peut-être du ministre de l'Intérieur lui-même, par rapport à ces filières djihadistes, qui étaient pourtant un danger clairement perçu il y a plus d'une dizaine d'années. Hein, moi, je me rappelle, avant même les attentats du 11 septembre, avoir orienté l'action des services de renseignement dans cette direction. Et puis, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas je dirais, une orchestration bruyante de ces procédures pour donner le sentiment aux Français qu'ils sont défendus par ce gouvernement, donc, avec toujours le soupçon instillé que la gauche ne les défendrait pas. Mais je fais observer que quand la gauche était là, il n'y a pas eu d'attentat de type djihadiste. Il y en a eu avant, il y en a eu après, et par ailleurs, quand je vois qu'un certain nombre de responsables de services placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Défense refuse de déférer à la convocation d'une institution parlementaire qui est la commission du renseignement, hein, je trouve que là, on n'est plus tout à fait dans le respect de l'état de droit.
On va avoir un appel, mais juste avant, comment avez-vous réagi 2 heures après la mort de Mohamed Merah? Nicolas Sarkozy a fait plusieurs annonces d'évolution de la loi en sanctionnant la consultation de sites faisant l'apologie du terrorisme, en surveillant et pénalisant des personnes qui iraient faire des voyages dans des pays à risque, entre guillemets. Quelle a été votre position là-dessus?
Écoutez, je vais être franc, je suis soucieux de l'ordre public. Je pense qu'il y a des mesures qui auraient été prises depuis longtemps, qui auraient dû être prises depuis longtemps, comme par exemple la surveillance des sites djihadistes.
Alors, de là à pénaliser, on a du mal à comprendre.
De là à pénaliser la visite d'un site djihadiste qui peut se faire par erreur ou par un effet de curiosité, je dirais qu'il n'y a pas toujours une intention maligne. Je pense que c'est quand même extrêmement difficile de pénaliser l'usage d'Internet. Et que M. Sarkozy pourrait quand même comprendre que c'est très difficile. Par contre, donner à la police des consignes de vigilance quant à savoir qui visite ces sites Internet, ça, c'est très intéressant.
Et ça a manqué, selon vous. Vous dites en fait clairement qu'il y a eu un défaut de vigilance sur la question de ces islamistes.
Non, je dis qu'on ne peut pas ne pas se poser la question des failles dans l'activité des services de renseignement. Quant aux propositions de M. Sarkozy, certaines sont judicieuses. Par exemple, faire en sorte qu'il n'y ait pas dans les prisons une action propagandiste amenant des délinquants de droit commun à se radicaliser. Mais ça supposerait une politique d'investissement sur les prisons, qu'on évite de mettre ensemble un certain nombre d'éléments qui ne doivent pas être amenés à se côtoyer. Donc, et puis par ailleurs, il y a des propositions qui ne tiennent pas la route. On ne peut pas interdire les voyages dans certains pays. Ça, c'est pas possible. Mais on peut effectivement enquêter sur les personnes qui accomplissent ces voyages, savoir ce qu'elles sont allées faire. Et encore une fois, tout ceci doit se faire dans le respect de l'état de droit. Hein, la République... Hein, c'est cela. C'est un régime de droit. Ce n'est pas un régime de faiblesse.
Alors, justement, vous êtes un républicain convaincu. Est-ce que toutes ces interpellations, les meurtres commis par Mohamed Merah peuvent inquiéter? On revient sur une vision d'une France divisée avec un islam qui n'aurait pas été intégré par la France.
Mais non, alors là, je vous arrête tout de suite.
Alors, quel est votre diagnostic là-dessus?
Je pense qu'il y a une confusion totale entre ces éléments djihadistes radicalisés et d'autre part la masse des musulmans. Il ne faut jamais oublier, je le dis et je voudrais que ce soit répété et repris par des agences de presse, si tant est que des agences de presse peuvent reprendre mes propos, que les musulmans sont 99% des victimes du terrorisme djihadiste, que ce soit en Irak au Pakistan, en Algérie, en Afghanistan, ce sont des musulmans qui tombent sous les coups des terroristes, hein, en grande majorité. Et puis aussi, naturellement, des soldats français ou américains, ou des gens qui passent par là, hein, qui sont des gens qui ne savaient pas très bien qu'ils allaient au-devant de la mort. Hein. Mais ces gens-là dénaturent complètement l'islam. Je m'intéresse beaucoup aux pays musulmans depuis longtemps. Et... J'ai été sous-lieutenant SAS en Algérie. Je suis président de France-Algérie aujourd'hui. Je connais la tradition de miséricorde et de bienfaisance de l'islam modéré, qui est l'islam pratiqué par l'immense majorité des musulmans maghrébins et par nos concitoyens de religion musulmane, qui d'ailleurs, quand j'entends M. Sarkozy parler d'apparence musulmane, mais c'est ridicule, il y a des musulmans qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds, etc., tout ça, il n'y a pas d'apparence musulmane.
Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, c'est les musulmans en France qui sont les victimes de ce que l'on voit aujourd'hui.
Oui, en plus de ces amalgames grossiers qui rendent leur vie plus difficile. Et nous, en tant que républicains, nous devons veiller à ne pas faire ces amalgames, hein, à savoir qu'il y a des gens qui se radicalisent. Nous en avons eu de bien de chez nous, Action Directe. Hein. C'était des terroristes bien de chez nous. En Allemagne, la bande Abadère. Hein. En Italie, les Brigades Rouges. Donc ce phénomène de radicalisation qu'avait décrit Dostoïevski dans Les Possédés, bah oui, c'est quelque chose qu'il faut étudier de plus près. Il faut savoir comment un certain nombre de gens sont amenés à se radicaliser. Et pour combattre cela, je crois qu'il n'y a qu'un seul programme. C'est celui d'une république en action dans tous les domaines. L'école, le logement, la ville.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire sur l'école, par exemple, pour que justement, un, les amalgames ne soient pas faits, et deux, d'éviter surtout que des parcours comme celui de Mohamed Merah se répètent.
Ben, il faut d'abord que l'école fasse son boulot, et dès le plus
jeune
âge...
Elle ne le fait pas, et qu'est-ce qui manque aujourd'hui, alors ?
Il est certain que vous avez aujourd'hui 25% de gamins qui, au cours préparatoire, n'apprennent pas réellement à lire et à écrire. C'est les mêmes 25% que vous retrouvez à la sortie du collège.
Donc François Hollande, justement, veut rajouter, remettre des moyens sur l'école primaire.
Donc il faut mettre des moyens, et il faut aussi avoir une exigence en matière éducative. Et peut-être cette exigence... Il faut le dire, a-t-elle aussi manqué ? Il faut remettre de l'éducation civique au sens large, rappeler ce qu'est la République. La République, c'est la souveraineté nationale, c'est le citoyen, parcelle du souverain, est capable de juger des affaires du pays, donc instruit par l'école, instruit de manière laïque, naturellement. Hein, instruit des grands principes qui sont ceux de notre République.
On a, je crois, une personne qui nous appelle. Allô ? Allô ?
Oui, allô ?
Oui, bonjour. Vous êtes sur Radio Hollande avec Jean-Pierre Chevènement qui va vous écouter, voilà, en mettant un casque. C'est, on vous écoute ? Vous êtes ?
Oui, bah, je suis un... Bonjour, Philippe Franchevert, je suis un simple particulier.
Alors, d'où vous nous appelez ?
Je vous appelle de Chartres.
De Chartres, très bien. Et alors, est-ce que vous avez une question à poser à Jean-Pierre Chevènement qui vous écoute ?
Oui, ça concerne en fait le droit juridique français. Je voudrais lui demander son avis sur la possibilité d'étendre à la France un système qui marche très bien en Amérique. Ils n'ont pas que des mauvaises idées, les Américains.
Oui.
Au niveau des libertés publiques, ils en ont une qui est très intéressante, à mon sens, et que depuis très longtemps, le patronat français combat, avec efficacité d'ailleurs. C'est la possibilité pour des associations ou des avocats, ou des syndicats, ce sont aussi des associations, de se porter partie civile de façon groupée, en pratiquant ce qu'on appelle des class actions,
oui.
De façon à ce que dans des scandales comme celui de l'amiante, du médiator...
Et qui n'est pas encore possible dans le droit français. Donc vous souhaitez que l'on mette en place...
C'est un droit très bourgeois, en fait, sans être communiste, qui relègue en fait les personnes, qui divise pour régner de façon à ce que les interventions soient multipliées pour chacune des personnes, afin de les dissuader. Et donc, je pense que ça pourrait être, comment dire, je ne sais pas son avis, mais quelque chose
qui pourrait
augmenter les droits publics, mais aussi désengorger le système judiciaire français, qui est un des plus pauvres du monde. Il y a 10 fois plus qu'en Amérique par habitant.
Et, vous êtes vous-même juriste ? Vous êtes dans les...
Non, je suis ingénieur en informatique. Vous voyez,
d'accord,
c'est rapport,
comme quoi ça n'empêche pas d'avoir une vision du monde. Merci, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Chevènement sur... Alors Jean-Pierre Chevènement, les classes actions,
Alors, revenons au droit français, oui. Tel que je crois le connaître. Pour porter plainte devant la justice, il faut avoir un intérêt.
Oui, mais hein? ça peut être le cas dans un cas comme l'amiante ou comme le médiateur.
D'accord, mais on dira victimes. Que ceux qui y ont intérêt sont les ouvriers qui ont été contaminés par l'amiante, etc. Il faut avoir subi un préjudice et ça permet de définir qui peut porter plainte. Mmh. Hein? Voilà, ça c'est le droit français actuel. La proposition de classe action, voilà. C'est telle ou telle association, tel ou tel syndicat, tel ou tel groupement qui se porte partie civile et peut-être même plus que partie civile qui peut intenter un procès pour l'émission de telle ou telle opinion. Alors je vais être très franc. Moi, je ne suis pas partisan de la judiciarisation de l'espace public. Et je pense que la multiplication des procédures judiciaires finit par empêcher l'expression de la pensée libre dans laquelle je crois. Je pense que quand on est sûr d'une cause, on est capable d'argumenter pour la défendre. Et on n'a pas besoin de faire appel à la justice.
Alors, juste une chose, c'est que comme on est par exemple des gros opérateurs téléphoniques, le particulier, même en étant libre, peut se sentir seul et avec des coûts de justice très élevés. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un moment, une dimension positive à se retrouver ensemble pour pouvoir éventuellement se faire justice. Vous êtes sceptique. Je ne sais pas si on est toujours en ligne avec notre auditeur.
Oui, certainement.
Oui, allô ?
Non, il a...
Il
était dégoûté par ma réponse.
Donc, il n'est pas convaincu.
Il n'est pas convaincu, sans doute. Hein, enfin, on peut l'imaginer.
D'accord.
Mais écoute, je n'y ai pas réfléchi suffisamment.
Bon, très bien.
Hein, je ne peux pas vous
répondre. Mais c'est vrai que ça, c'est une évolution de la société de consommation. Je me rappelle, vous aviez cité, c'était pensé comme des porcs, c'était sur des émissions de télévision.
À Châtelet, oui.
De Châtelet, qui était Châtelet, un ouvrage que vous aviez aimé. Et c'est vrai que vous avez un rapport à l'individu dans une démocratie qui est très, très clair, c'est-à-dire, voilà, c'est un citoyen, il doit se débrouiller un peu et penser librement.
Oui, il doit exercer sa raison. Et il est absolument fondamental que la démocratie vivent du choc des opinions, du choc de l'argumentation, et qu'on ne soit pas terrorisé, avant même de prendre la parole, à l'idée que tel groupe, sous tel ou tel prétexte, pourrait vous attaquer parce que vous auriez émis une position qui serait contraire ou politiquement correcte. Moi, ce que je crains, c'est l'idéologie dominante, qui, comme Marx le disait, est toujours l'idéologie des classes dominantes.
D'accord. Est-ce qu'on a un autre auditeur, non ou... Allô ? Parce que... Non ? Allô ?
Oui, allô ?
Oui, bonjour.
Oui, oui bonjour.
On vous écoute, vous êtes avec Jean-Pierre Chevènement, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, c'est Sylla Mohamed, étudiant étranger en Master 2 à l'Université de Toulouse.
Oui.
Et je suis sympathisant du Parti Socialiste, donc voilà, je supporte le champion François Hollande.
D'accord. Et alors, est-ce que vous avez une question à poser à Jean-Pierre Chevènement ?
Je voudrais poser une question à M. Chevènement. Je voulais savoir, aujourd'hui, nous sommes étudiants étrangers en France et nous avions vu la circulaire Guéant et on voit tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui à la préfecture pour le renouvellement de nos titres de séjour. Donc le candidat socialiste François Hollande, qu'est-ce qu'il propose demain s'il arrive au pouvoir ?
Alors, on va voir ça avec Jean-Pierre Chevènement. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre Chevènement. Sur la question des étudiants étrangers, on a vu qu'ils s'étaient d'ailleurs constitués dans un mouvement, le mouvement du 31 mai, et une circulaire qui a en effet durci les possibilités pour un étudiant étranger de travailler en France.
Circulaire absurde, car au prétexte d'aider ces pays à retrouver les élites qui seraient venues se former en France, en réalité, on interdit aux étudiants qui ont obtenu un diplôme en France de travailler, d'acquérir une expérience qu'ils pourraient ensuite, bien entendu, mettre à la disposition de leur pays d'origine. Et pour un pays qui veut être attractif du point de vue de ses universités, et la France compte parmi les pays les plus attractifs, avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, du point de vue universitaire. Je dirais que c'est une drôle de manière de se rendre attractif que d'interdire le travail à ceux qui, en France, ont obtenu un diplôme. Je suis donc pour l'abolition de cette circulaire. Je pense qu'elle fait partie un peu de ce climat d'intoxication qui précède le premier tour de l'élection présidentielle, en tout cas la période qui est avant les présidentielles. présidentiel. Donc la concurrence entre le Front National et Nicolas Sarkozy est évidemment à l'arrière-plan de tout ça.
Mais alors, quelle est la politique d'immigration qu'il faudrait mettre en place ? On a eu beaucoup de lois sous ce quinquennat. Aujourd'hui, quelle est votre position ? Quelle politique d'immigration ?
Il n'y avait pas besoin de changer beaucoup de choses à la loi que j'avais fait voter. En 1998, qui a permis un certain nombre de régularisations, principalement sur critères d'intégration, conformément aux recommandations qui avaient été, en 1996, celles de la Commission consultative des droits de l'homme. Donc je pense que...
Il faut revenir à cette loi de...
Oui, il faut revenir à cette loi... et je ne suis pas partisan de dire quiconque veut venir s'installer en France peut le faire. Non, chaque pays a le droit de maîtriser le droit au séjour, mais on peut le maîtriser intelligemment. Et je suis partisan d'une politique ferme, mais intelligente, humaine, dans le domaine de l'immigration, particulièrement vis-à-vis de pays qui sont des pays francophones, qui se souviennent d'avoir eu des liens très étroits avec la France. Et c'est très dommage de voir tant de jeunes gens et de jeunes filles qui vont faire leurs études en Belgique ou au Canada ou aux États-Unis plutôt qu'en France.
Alors, on a entendu Nicolas Sarkozy remettre en question le traité de Schengen lors d'un de ses discours de campagne. Là aussi, est-ce que vous pensez que Schengen ne remplit pas le rôle qui est le sien, c'est-à-dire d'arriver à encadrer l'immigration au niveau de l'espace européen ?
Le traité de Schengen fait qu'il y a un système de contrôle, un fichier unique pour l'ensemble de l'espace Schengen qui doit aujourd'hui regrouper une bonne dizaine de pays, peut-être même un peu plus. Donc naturellement, il faut qu'il y ait une certaine veille aux frontières extérieures.
Est-ce qu'il y a quelque chose à changer là-dessus?
Il peut y avoir des clauses de sauvegarde, je crois savoir qu'elles sont en cours de négociation. Mais il y avait une séance qui s'est tenue à Bruxelles, mais à laquelle il semble que M. Guillaume ne se soit pas rendu. Il a dû se faire représenter, j'imagine. Mais malgré tout, je crois qu'il y a un peu de démagogie dans tout cela. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle, mais ça ne justifie pas tout.
Et ça crée quand même, du coup, une certaine suspicion si beaucoup d'actions faites au nom de l'État sont finalement motivées par des questions électorales, des questions d'image.
Il faut être vigilant. Ouais. Et le fait que j'intervienne sur vos ondes ramènera peut-être à un comportement plus raisonnable un certain nombre de nos responsables qui croient pouvoir s'affranchir des règles d'une décence élémentaire pour pratiquer des opérations destinées à agiter l'opinion publique en espérant que ça ira dans le sens de M. Sarkozy.
Alors justement, dans votre carrière politique aujourd'hui, après l'élection présidentielle, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Dans quel combat vous avez envie de vous lancer ? Vous avez une vie politique riche, un parcours ministériel déjà nourri. Qu'est-ce que vous avez encore aujourd'hui envie de donner à la vie ?
Je suis parlementaire.
Vous êtes sénateur.
Je suis sénateur du territoire de Belfort pour encore au moins 2 ans, jusqu'en 2014. J'ai quelques sujets de prédilection. Alors, l'éducation. Les ministères que j'ai pratiqués, beaucoup.
Mais je m'intéresse
La défense, bien entendu. Je suis membre de la commission des affaires étrangères et
J'en profite
défense.
D'ailleurs, je ne vous ai pas interrogé sur la question de l'OTAN, qui est aussi une question qui est venue dans le débat
présidentiel. Oui, alors évidemment, le retour escompté n'est pas au rendez-vous, puisqu'il s'agissait de faire avancer la défense européenne. M. Sarkozy a surtout doublé notre contingent de soldats en Afghanistan, alors avec les résultats qu'on voit, malheureusement. Et puis d'autre part, nous avons envoyé 700 officiers qui aspiraient bien entendu à prendre du galon dans les états-majors de l'OTAN. Et nous sommes embringués dans une affaire de bouclier antimissile qui est tout à fait, contraire au principe de la dissuasion, qui serait une aventure coûteuse. Et j'ajoute inutile, parce que je tiens de la bouche même d'experts compétents aux États-Unis que seuls 80% des missiles que les Américains s'envoient à eux-mêmes sont interceptés. Donc c'est un bouclier troué, et je pense que les sommes considérables que les Américains y ont consacrées, des centaines de milliards de dollars, nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe en Europe.
Et donc c'est quoi l'Europe de la défense ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ?
Alors vous savez, il y a 2 pays qui font un effort un peu supérieur aux autres, c'est la France et la Grande-Bretagne. Si nous pouvons coopérer mieux, je crois que c'est souhaitable. Et puis il faudrait amener les Allemands à surmonter une certaine vision un petit peu irénique de la situation. Il faut savoir quand même que des pays en Asie augmentent leurs arsenaux, y compris nucléaires. D'autres essayent de se procurer des armes de destruction massive, nucléaires, chimiques ou biologiques.
Donc on aurait justement besoin de regrouper tous les moyens
Actuellement,
pour se protéger
si
de ces
voulez,
menaces.
Ces moyens sont faibles parce que beaucoup de ces pays ne font même pas 1% du PIB, ne consacrent même pas 1% de leur PIB à leur effort de défense. L'Allemagne fait un effort qui n'est pas très considérable, hein, et je pense que il faut essayer de comprendre un petit peu le monde dans lequel nous allons. C'est un monde multipolaire, c'est un monde qui sera difficile. C'est un monde où nous ne maîtrisons plus la technologie. Nous avons perdu le monopole de l'histoire. C'est peut-être très bien comme ça. Mais il faut savoir que les pays qu'on dit émergents sont des pays qui sont portés par un nationalisme conquérant. Et
il faudra
naturellement,
pouvoir
notre
avoir
environnement
éventuellement
proche n'est pas à l'abri de surprises stratégiques. Donc il faut garder une position de veille raisonnable si nous voulons préserver la paix.
Bah, merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement. Vous nous avez donc parlé d'une autre Europe, l'Europe de la croissance, d'une immigration qui peut se faire avec des règles, et puis parfois d'une instrumentalisation de la politique avec ce qu'on a vu, ou en tout cas ce qu'on voit ces derniers jours. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Hollande, et bonne campagne.
Merci.